Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission « À quoi ça rime ?». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un des écrivains les plus importants du 19e siècle français, Guy de Maupassant. Oh, il n'a pas vécu très vieux, il est né en 1850, il est mort en 1893, il a écrit quelques romans à succès. Une vie, belle amie, etc. Mais il a surtout écrit une quantité impressionnante de nouvelles. Et ces nouvelles restent, à mon avis, parmi les trésors de la littérature française. Et je voudrais commencer par l'une d'entre elles qui est peut-être la plus connue, Boule de Suif. Au passage, je rappelle plutôt que en 1945, Christian Jacques, le réalisateur, en a tiré un film avec Micheline Prel et Louis Saloux. On dit aussi, là j'en suis moins sûr, mais on dit que John Ford, le réalisateur américain, s'en est fortement inspiré pour son western très connu, La Chevauchée Fantastique, en 1939. Mais revenons à la nouvelle. Voici cette nouvelle Boule de Suif. Nous sommes après la guerre de 1870. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits mobloirs alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite, puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille. Des artilleurs sombres, alignés avec ces fantassins d'hiver, et parfois le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant en drap ou en graines, ex-marchand de suif ou de samon, guerrier de circonstance, nommé officier pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles, de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne, prétendaient soutenir seule la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sacs et de cordes, souvent bravins à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale, qui depuis 2 mois faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles et se préparant au combat, quand un petit lapin remué sous des broussailles était rentré dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier dont elle épouvantait naguère, les bornes et routes nationales à 3 lieues à la ronde, avaient subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-Audemer, Fort Saint-Sever et Bourassa. Et, marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied entre deux officiers d'ordonnance. Puis, un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérât comme une arme leur broche à rôtir ou leur grand couteau de cuisine. La vie semblait arrêtée, les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques hulans sortis on ne sait d'où traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la côte Sainte-Catherine tandis que les deux autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes d'Arnetal et de Bois-Guillaume. Les avant-gardes des trois corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de Hôtel-de-Ville. Et par toutes les rues voisines, l'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements criés d'une voix inconnue et gutturale montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies de par le droit de guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce que protégeaient les lois des hommes ou celles de la nature se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce. Le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulantes un peuple entier, le fleuve débordé qui roule les paysans noyés avec les cadavres des bœufs et les poutres arrachées au toit, l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent en menant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant Dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et la raison de l'homme. Mais à chaque porte, des petits détachements frappés disparaissaient dans la maison. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commencé pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Au bout de quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s'établit. Dans beaucoup de familles, le officier prussien mangeait à table. Il était parfois bien élevé et par politesse plaignait la France, disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment, puis on pouvait un jour ou l'autre avoir besoin de sa protection. En le mélangeant, on obtiendrait peut-être quelques hommes de moins à nourrir et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait. Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité. La témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen comme autant des défenses héroïques où s'illustra leur cité. On se disait enfin raison suprême, tirée de l'urbanité française, qui demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur, pourvu qu'on ne se montra pas familier en public avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison, on causait volontiers. L'Allemand demeurait plus longtemps chaque soir à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers du Cherbleu qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé ne semblaient pas avoir, pour les simples citoyens, énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs qui, l'année d'avant, buvaient au même café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère, intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures, les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage très loin, chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours. Ils étaient riches d'ailleurs, mais plus un négociant normand devient opulent et plus il souffre de tout sacrifice, de toute sa parcelle de sa fortune qui va passer au moins d'un autre. Cependant, à deux ou trois lieues, sous la ville, en suivant le cours de la rivière, les mariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'Allemands, gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau ou de savate, la tête écrasée par une pierre ou jetée à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances obscures, sauvages, légitimes. Héroïsmes inconnus, attaques muettes, plus périlleuses que les batailles au grand jour, et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelques intrépides, prêts à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, bien qu'assujettissant la ville à leur inflexible discipline, n'avaient accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre tout le long de leur marche triomphale, on s'enhardit. Et le besoin du négoce travaillait de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre que l'armée française occupait. Ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe où ils s'embarqueraient. On employa l'influence des officiers allemands dont on avait fait la connaissance et une autorisation de départ fut obtenue du général en chef. Donc, une grande diligence à 4 chevaux ayant été retenue pour ce voyage et 10 personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin avant le jour pour éviter tout rassemblement. Je vous remercie de m'avoir écouté.